bonsoir tout le monde. Je crois que gentiment, tranquillement, on va pouvoir démarrer et ouvrir donc cette quatrième séance du Nartex 2023 sur le thème général, le travail.
C'est la santé.
Quoi ? Ça peut être la santé. Oui, oui, tout n'est pas mauvais dans le travail.
Ça peut être la santé.
Pourtant. Voilà, donc ce soir, c'est notre quatrième séance qui va donner la parole à des gens, personnes qui ont complètement changé de travail. Ils ont changé de métier. Ils ont changé de métier. Et nous avons donc de droite à gauche, donc Valentin, Mathilde, Pierre qui nous fait la gentillesse d'animer la soirée. Merci. Et puis Pierre-Jean. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. S'il y en a qui partent avoir, n'oubliez pas, je le redirai après, excusez-moi de cette demande, mais ça ne demande pas beaucoup d'argent d'organiser cette quinzaine un petit peu. Donc, s'il y en a qui désirent participer, vous avez une urne à la sortie dans le hall. Merci. Merci d'avance. Donc, je remets la parole à Pierre et à nos hôtes, nos invités. Nos invités qui ont changé de métier.
Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir.
Parlez bien dans le micro et sur le
bonsoir à tous, merci d'être là ce soir avec nous. Je remercie le Nartex d'organiser cette quinzaine sur le thème du travail. C'est un sujet, je pense, qui est au cœur des préoccupations et du débat contemporain. Qui va en plus discuter avec toutes les transformations qu'il y a actuellement dans le monde du travail et de la production. Aujourd'hui, parmi les jeunes que j'ai la chance d'encadrer comme professeur au lycée de Hoche, la plupart de ces jeunes qui ont 15 à 18 ans connaîtront jusqu'à 16 emplois en moyenne dans leur existence. Et 16. En moyenne, donc ça veut dire certains un petit peu moins, d'autres auront beaucoup plus. Et aujourd'hui, d'après l'Observatoire des métiers notamment, qui était auditionné au Sénat récemment, il y aura peut-être jusqu'à au moins deux, voire je ne sais pas si je dis, mais peut-être trois jeunes sur quatre qui connaîtront un changement de carrière au cours de leur carrière professionnelle. Ce qui est une évolution, même comparée à ma génération, où quand même on avait l'idée, on faisait des études, ensuite on avait son bac, on allait à la fac peut-être, et ensuite on rentrait dans un métier et on y restait longtemps. Mais un métier après tout, ça n'est qu'une idée récente. Hein. L'idée d'avoir un métier même aurait pu choquer des gens que nous avons encore connus de notre vivant. Jusqu'à la révolution industrielle, avoir un métier, c'était une chose bizarre. On était d'un pays, on était d'un terroir, on était d'un village, d'une ville. Avant d'être un chauffeur, d'être un ouvrier, on était quelque part, c'était notre identité. Maintenant, les choses sont plus brouillées. Lorsqu'on nous dit qui sommes-nous, on dit ah, qu'est-ce que je fais dans la vie, je suis ça, je suis professeur, je suis ouvrier, je fais quelque chose. Mais tout ça se brouille à nouveau, c'est les évolutions modernes du capitalisme. Les choses bougent rapidement, les choses changent. Et donc ce soir, nous avons des parcours, je pense, intéressants et assez riches, qui vont nous permettre de voir justement un petit peu. Comment on peut naviguer dans la vie lorsqu'on passe d'un métier à un autre, lorsqu'on doit repenser aussi ce qu'on fait et lorsqu'on remet en cause tout ce qu'on a fait avant, hein, voir que ce qu'on fait a du sens. Et je pense que pour les jeunes à qui je dis aujourd'hui « Allez, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» et ben, voir également qu'on peut peut-être, on n'est pas condamné à un seul destin, on n'est pas condamné à une seule voie, c'est important aussi. C'est pour ça que je suis très heureux d'être là avec vous ce soir. Pierre-Jean, je vais te laisser raconter ton parcours, et puis ensuite je me tournerai vers les autres interlocuteurs. Puis nous aurons une séance de questions avec la salle. Vous serez bien sûr invité interroger si vous avez besoin de détails sur les parcours de nos invités, je pense qu'ils seront ravis de vous répondre. Je t'en prie.
Bonsoir à tout le monde.
Vous m'entendez si je parle comme ça ou pas?
Bon, je suis Pierre Jean. Je me définis un petit peu, j'ai 57 ans, je vais faire 58 ans. Puisqu'on se définit par une profession, je vais donner la mienne. Aujourd'hui, je suis apiculteur, mais je suis aussi gérant de parc à fourrage. Voilà, pour vous situer un petit peu. Donc, j'ai déjà deux cordes à mon arc. Comment j'en suis arrivé là? Donc, je suis rentré pour vous définir à l'âge de 15 ans. J'ai un frère qui est aujourd'hui ingénieur et qui a 6 ans de plus que moi et que je voyais travailler jusqu'à 1h, 2h du matin. Il a fait maths sup, maths spé, école d'ingénieur. Et je voyais mon frère bosser jusqu'à 2h du matin de la physique, de la méca. Et moi, je ne pouvais pas. Moi, je faisais de la mobilette, j'étais dehors, enfin voilà. Et du coup, à l'époque, ça remonte à des années que vous connaissez, mais il y a 40 ans, il y avait plein de concours qui s'offraient aux jeunes à 15 ans, 16 ans. Vous aviez le concours de la SNCF, de l'EDF, des PTT, et notamment, moi j'habitais au Royan, il y avait le concours de l'Arsenal. Donc je suis rentré à l'Arsenal à l'âge de 15 ans et j'ai fait l'apprentissage. Donc j'ai commencé à travailler à 18 ans. Voilà, j'ai fait mon armée. Et puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était un peu compliqué pour moi quand même de travailler à l'usine. Et j'ai quand même insisté, j'ai fait les cours du soir, je suis parti à la Bourges pour apprendre la productique. La productique, c'est tout ce qui est robotique, programmation, documents numériques, machines-outils, enfin voilà. Je suis revenu. Et puis ça n'est pas mieux quoi. Je m'y retrouvais toujours pas quoi. Et à l'époque je sortais avec une jeune fille et pour vous signifier que ma vie est faite de rencontres quoi, qui m'ont fait cheminer, qui m'ont amené sur d'autres voies. Et à l'époque je sortais avec une fille qui passait un brevet d'état d'expression chimique et discipline associée, c'est un brevet d'état qui permet de travailler dans les salles de sport et voilà. Et moi, à l'époque, je sortais de faire beaucoup de karting, de mobilette, j'étais plutôt dans les sports mécaniques. Et à côté de ça, je faisais quand même beaucoup de montagne. Donc déjà, je oscillais entre deux pratiques. Voilà. Et la montagne, du coup, m'a amené à me dire, mais tiens, peut-être je pourrais en faire un métier, ça me plaît. Rester enfermé entre quatre murs, la hiérarchie, des gens qui vous disent ce qu'il faut faire, comment le faire, vous contrôler le temps de travail, enfin tout ce qui se passe à l'usine, s'il y a des gens qui ont travaillé à l'usine, même si l'Arsenal n'était pas la pire, on est de là, mais enfin, ça ne me correspondait pas du tout, quoi. Donc j'ai passé un brevet d'état d'accompagnateur en montagne et un brevet d'état d'éducateur sportif, quoi, en parallèle. Alors ça, je l'ai eu, j'ai bénéficié de congé formation. Donc il faut savoir qu'en France, il existe, les entreprises cotisent dans des fonds qui permettent aux gens de sortir de leur... d'avoir des formations rémunérées avec un salaire, le coût de la formation pris en charge. Donc j'ai pu bénéficier de ça et au travers de l'Arsenal qui était entre-temps devenu GNT Industrie. Et donc j'ai fait cette première formation et assez rapidement je me suis mis à temps partiel à l'usine. Et j'ai pu comme ça exercer un métier de passion que j'appelle, puisque c'était vraiment, j'avais envie de vivre de ma passion. Donc je suis resté à mi-temps quelques années et jusqu'au moment où j'ai quitté carrément GAT Industrie pour vivre de ça. Donc en parallèle de mon métier d'accompagnateur, et notamment j'avais la calife camion qui me permettait d'exercer en camion, donc je faisais de très bonnes saisons, je cherchais à côté de ça une autre activité, parce qu'il faut savoir que l'accompagnement, c'est quand même quelques mois dans l'année, et pour remplir l'assiette, c'était pas suffisant, quoi. Donc je cherchais autre chose, donc j'ai imaginé passer un brevet d'état pour aller brevet d'état de plongée, pour aller faire la saison sur les Antilles, pour encadrer de la plongée. En fait, j'étais ouvert à toute. J'ai eu des moutons, j'ai eu. Et puis, mais quand on passe à l'accompagnateur, on rencontre des gens qui ne sont pas forcément de l'usine. Je ne sais pas péjoratif ce que je veux dire, mais les sujets abordés ne sont pas forcément les mêmes. Et ça m'a ouvert les yeux sur un monde que je ne connaissais pas, et notamment l'apiculture. Donc, du coup, en parallèle de l'accompagnement, je me suis mis à avoir quelques ruches. Voilà, 5, 10, 20. 50 pour en avoir aujourd'hui à peu près 200, quoi. Et m'installer dans les années 2000 comme apiculteur. En parallèle aussi, au travers des rencontres qu'on peut faire quand on exerce le métier d'accompagnateur en montagne, donc j'avais des copains qui étaient BE escalade, BE stéo, et on a commencé à tirer du câble en forêt de Oron dans les années 87-97. Et donc on faisait des nuits en hamac dans les arbres, on avait tiré des câbles pour que les jeunes ils fassent des tyroliennes qui grimpent sur les arbres, et on faisait de la course d'orientation, et du coup ça nous a donné des idées, et on s'est dit, j'ai été associé avec un collègue, on s'est dit tiens, peut-être qu'on pourrait faire la même chose chez nous, et du coup on a monté. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent, qui ont été l'AIA, Bagnères de Bigorre, qui est dans la vallée du Chevrolet. Donc, la pro-branche, qu'on a commencé en 98, mais il n'y avait rien, quoi. On n'avait pas d'argent, on avait. Voilà. Et petit à petit, on a été autoconstructeur, et donc on en a fait un, et puis on en a vendu un, même à Pissos, et puis on a été contacté pour en vendre un autre. Et puis, enfin, voilà, la vie a voulu que. Viennent un petit peu quand même au fait de cette capacité à construire des parcs, quoi. Tout ça, tout en continuant à faire de l'apiculture et en faisant aussi encore de l'encadrement. Donc je jonglais un peu, quoi. Des fois, je rentrais le soir à 10h, j'extrayais du miel, le lendemain je repartais en canyon, et puis hop, le mardi je récoltais du miel. Enfin, c'était un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est des années. Si j'ai quelque chose à retenir de toutes ces années, hein, c'est que moi j'ai voulu faire un métier passion, vraiment où je me retrouvais dans ce que je faisais, où j'avais aucun souci de la hiérarchie. Je veux dire, la seule hiérarchie, c'est moi. Des fois, c'est compliqué. Voilà. Ce que j'ai gagné en liberté. Je ne l'ai pas gagné en termes. Je l'ai perdu en termes de. C'est devenu précaire, en vrai, mon travail, puisqu'on ne sait jamais ce qu'on va gagner. Donc, si j'avais continué à l'Arsenal, j'aurais été reclassé. Peut-être que je gagnerais 3500 euros par mois aujourd'hui, ou 4000 euros. J'ai eu des années pas très bonnes, parce que des fois, on perd des rebucheux, parce que la saison elle est moins bonne, il ne fait pas très beau. Donc, on sort moins. Ça... Mais moi, je regrette rien. Je n'ai aucun regret de ce que j'ai vécu tout au long de ces années, quoi. Voilà. Et pour ce qui est de l'apiculture aussi, j'ai réussi à avoir aussi un congé formation. Donc je suis un des rares Français peut-être à avoir eu deux congés formation dans ma vie. Donc, comme je vous disais, on est rémunéré. Quand on retourne dans l'entreprise, normalement, on va nous reprendre au même poste, donc c'était très très avantageux. Je le souhaite à tout le monde. S'il y a des jeunes, il n'y a pas trop de jeunes hein, ce soir. Mais pour ceux qui. Il n'y a pas d'âge pour cheminer. Voilà. Donc, est-ce que j'ai tout dit? Oui, j'ai quand même condensé. Et c'est quand même des rencontres. En fait, c'est vraiment des personnes, quoi, qui m'ont. Si je devais retenir quelque chose, c'est ça. C'est le fait d'avoir rencontré des personnes. Comme je vous ai dit, quand j'étais jeune, je faisais plutôt du karting. Donc j'allais faire des courses de kart un peu partout. Et Et la montagne, j'en pratiquais, mais c'est un cousin à moi qui m'a amené faire de la montagne, un oncle et une tante. Et à l'époque, j'avais déjà 20 ans, 21 ans. Quoi. J'avais déjà un petit peu. J'avais 5 années de boulot derrière. Voilà. Et c'est ces gens-là qui, petit à petit, m'ont fait découvrir d'autres espaces de vie. Quoi. Et m'ont amené à me dire mais oui, non, mais attends, Pierre-Jean, voilà. Tu peux choisir, tu as la possibilité de choisir, donc vas-y, fonce. Ouais. Mes parents n'étaient pas d'accord, hein. Quand je leur ai dit je quitte l'Arsenal, ils se sont arrachés les cheveux. Hein. Ils m'ont regardé, donc je n'avais pas forcément l'aval de mes parents, puisque comme la cité dit à l'époque, quand on rentrait à un endroit, c'était pour la vie à la mort, hein. C'était pour y finir ses jours. Quoi, hein. Donc il y avait ce souci-là de mes parents d'avoir une sécurité de l'emploi. Que moi j'ai balayé de revers de la mer en leur disant mais attendez, voilà. Et donc quand je suis parti, je me suis fait traiter de tous les noms d'oiseaux, de fous, de. Mais bon, je dis ça avec beaucoup de. Je les aime encore. Hein, voilà. Voilà, pour, c'est bon. C'est un quart d'heure.
Je
voudrais
peut-être une question après d'ailleurs.
J'ai essayé, alors je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce que c'est un métier, qu'est-ce que c'est une profession. Donc j'ai essayé de revenir un petit peu à mes premières amours, la langue française, de reprendre un petit peu les mots latins que j'ai dit. Donc on va essayer de préciser tout ça. Donc métier, ça vient de mistier en ancien français, qui veut dire le service, l'office. Donc c'est une occupation matérielle, mécanique, reconnue par la société avec laquelle on va subvenir à ses besoins. Le travail, on le sait tous, ça vient de travailler, du latin populaire tripagare, donc c'est torturer avec le tripalium, donc c'est bien que dans la notion de travail, il y a quand même vraiment une notion de torture. Et puis, profession, ça vient, c'était ça qui m'a intéressé, ça vient de professionis, de profiteor, donc composé de deux mots, pro, fateor, et fateor, ça veut dire reconnaître et avouer. Donc la profession est quelque chose avec la déclaration ouverte que l'on fait probablement aux autres et que l'on fait à soi-même. Et ça m'a beaucoup aidé à construire ce témoignage. Donc le métier, c'est la fonction qu'on tient au sein de la communauté du travail. Le travail, c'est les conditions dans lesquelles on va exercer son métier. Et puis la profession, au fond, c'est le sens profond que l'on cherche à travers son métier. Et le métier idéal est sans doute celui à travers lequel on va épanouir cette profession. Et pour moi, ma reconversion, hein, ça n'est qu'une évolution. Ça, c'est évident, je pense que c'est le discours qu'on va tous tenir. On prolonge une quête, celle d'un métier idéal, effectivement, mais moi, je n'ai pas du tout la pression de changer de profession en changeant. Je suis passée des lettres à la médecine, mais je n'ai pas eu du tout l'impression de changer de profession. J'ai changé de métier, ça c'est sûr. Et je me suis souvenu aussi d'une chose, c'est du jeu des métiers qu'on faisait quand on était petit à l'école, dans la cour de récréation. Vous savez, on mime un métier, puis les autres ont devenu. Et moi je me souviens, un jour j'ai mimé un métier, le métier que j'avais envie de faire quand j'étais petite. Donc j'ai fait ça, puis j'ai reculé comme ça. Et donc tout le monde a dit boulanger. Ah non, j'ai dit raté, complètement arrêté, c'est sage-femme, parce que je voulais être sage-femme. Alors là, tout le monde m'a regardé parce que personne ne savait ce que ça voulait dire faire cheval, mais bon. Et vous avez vu qu'on peut faire la même profession en faisant des métiers différents. Parce que finalement, ils font à peu près le même geste toute la journée. Ils se lèvent la nuit, ils travaillent la nuit, ils accouchent pas de vie, ils accouchent de la vie, et puis peut-être qu'en fait, ils accouchent un peu de mal. Donc on peut ne pas faire le même métier et faire la même profession. Faire même profession quelque chose. Alors, j'ai 15 ans, j'avais complètement oublié le métier de sage-femme boulangère et j'ai découvert les métiers des hommes et des femmes de théâtre. Alors, je ne sais pas ce que j'aimais le plus, si c'était de découvrir les personnages, d'être regardé, peut-être, ou de regarder. En tous les cas, je pense que, à travers ces métiers du théâtre, j'ai découvert ce qui allait. Quelles sont les prémices de ma profession, que j'ai appris sous forme un peu le communicare. Alors, communico, communicare, en latin, ça veut dire mettre en commun, recevoir en commun, entrer en relation avec quelqu'un, et ça vient de monus mundi, ça, je suis un peu plus la savante, une fille créative dans la salle, vous me direz, parce que en fait, je ne suis pas du tout savante pour ça, en tous les cas pour ça, ça veut dire le don. La deuxième exception, c'est don. Donc communiquer, c'est tenir sa place tout en allant vers l'autre et permettre à l'autre d'être à sa place en venant vers nous. C'est un don réciproque. Et donc, c'est un peu cette éthique-là que de la relation dont je faisais profession, je crois, dont j'avais envie de faire profession. Donc, j'ai été raisonnable, je me suis dit, j'ai travaillé dans le métier de la communication. C'est ce que j'ai fait initialement. Hein. J'ai fait des études de littérature, littérature africaine, et je me suis spécialisée en faisant un autre diplôme dans la communication éditoriale. Donc au départ, j'ai fait un premier projet entre les adolescents africains, les adolescents québécois, un projet éditorial, les ados français, ça abordait. Mais je crois que je faisais déjà profession de ce communiqué. J'essayais à travers ce projet éditorial de mettre en commun leur adolescence et essayer de trouver le lien qu'il y avait entre eux. Puis après, ce projet a avorté, puis je trouve un travail à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Je travaillais dans le service de communication. Donc là, effectivement, ma principale activité, c'était de produire des supports de communication. Les flyers, les affiches, les pancartes, tout ce que vous voulez. Et là, en fait, mon métier était assez vide de communication. J'ai rencontré des gens extraordinaires, mais j'avais une méthode de travail, et au bout de 1 an et demi, je répétais la même chose, et toujours la même chose. Et donc, je me suis reposée assez vite la question du communicare. Comment je pouvais communiquer le mieux, puisque les métiers de la communication ne pouvaient pas du tout me satisfaire. Comment je pouvais le mieux continuer avec ma profession. La profession que je m'étais donnée, celle de communiquer. Et donc j'ai essayé d'épanouir ce désir, cette profession, à travers les métiers du soin. Et alors là, je ne sais pas trop comment j'ai fait, mais j'ai fini par me retrouver par là en deuxième année de médecine. Et là dans les couloirs de cet apprentissage, hein, qui sont rompus symboliquement par les couloirs des hôpitaux, j'ai pu faire l'expérience que mon métier du soin était parfois aux antipodes de ce dont je faisais idéalement profession en m'engageant dans cette voie. Et je me disais que j'avais peut-être pensé trop vite que les métiers du soin pouvaient être le graal des métiers de la communication. Je pensais qu'être médecin, c'était un conciliabule entre le patient et le praticien. Et je n'avais pas encore en tête que parfois ce conciliabule pouvait être forcé, que les conditions de ce conciliabule pouvaient être forcées, qu'on pouvait tromper l'échange médical qu'on se donnait. J'avais encore naïvement à penser que les conditions de travail dans lesquelles on pratiquait notre métier pouvaient nuire au soin. Ça peut être un prochain prochain sujet pour le Martin, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais le soin fait sa crise de foi. Alors OI ou OIE, à chacun de les penser, et ça peut être un très beau sujet, parce qu'au-delà de ce sujet-là, on pense la société et tous les problèmes qui sont au cœur. Et donc j'étais étudiante en médecine, et là j'ai été rompue avec la question du travail dans mon métier, les conditions de travail, et j'ai découvert toute la violence institutionnelle à l'hôpital, la violence des études, la violence entre soignants, puis la violence de ce statut de médecin. Finalement, on nous répète, on nous assène que nous sommes des pourvoyeurs de vie. Et ce statut de pourvoyeur de vie nous permet de flirter facilement avec la mort. Et ça m'a beaucoup questionné. Alors, bien sûr, il y a le passage au pied avec les cadavres et la dissection. On n'en parle jamais après. Un grand sujet. Qu'est-ce qu'on tire de ce moment-là ? On en parle peu. Et puis, j'ai eu la chance d'être dans une université où il y avait un professeur qui n'était pas médecin, ce qui est très rare en médecine, quasiment existant, professeur de philosophie. Et il avait convoqué lors d'une semaine des spécialistes de la question de la médecine et du nazisme. Et là, j'ai découvert pendant une semaine avec effroi que les médecins étaient au cœur du projet nazi, c'est-à-dire de la négation totale de l'autre, de la capacité à n'en faire qu'un corps, sujet de toutes les expérimentations, vivant, même mort. J'ai découvert Karl Rand, qui était le médecin d'Hitler, qui a quand même contribué à exterminer 70 000 personnes handicapées, parfois les gazant, bien avant la solution finale, bien avant l'Holocauste. Ils ont été un peu les testeurs des chambres à gaz. Les tester plutôt sous le couvert d'un médecin, hein, qui avait en fait des instituts de mise à mort des personnes handicapées. Donc il était largement géré par les médecins. Et puis il y avait aussi Julius Allard Gordon, c'est un médecin neurologue, lui il récupérait les têtes, seulement les têtes, hein, qui suffisaient, les têtes de ces personnes handicapées. Je crois qu'il a fait des expériences jusque dans les années 60. Et là, je crois que cette semaine-là, je suis peut-être devenue médecin. Plutôt, je me suis mise en devenir le médecin que je voulais être. J'ai définitivement gravé en moi la profession de foi de soignante. Celle du communicaré, rien d'autre. Voilà, donc j'en suis là dans mon chemin. Et je me demande comment soigner. J'ai gagné le droit d'être médecin, c'est grave. Comment soigner alors qu'aujourd'hui on vit tellement dans des conditions d'exercice qui tuent le soi? Je ne suis vraiment pas la seule, hein, c'est parce qu'il y a tellement de soignants qui se posent la question, qui démissionnent, qui tombent malades, hein, donc tous malades. Tous les médecins qui sont placés sont tous tombés malades, y compris à 38 ans. Et on nous parle beaucoup de la juste distance dans notre métier dès le départ, mais il faut soigner dans la juste. Et ça m'a interrogé dès le départ. Je vous remercie de cette invitation parce que ça m'a aussi beaucoup permis de repenser à cette juste distance. Et moi, je pose la question, mais comment échapper à cette juste distance avec le patient à laquelle nous force notre institution de santé? Parce que je crois que c'est un grand mensonge et une grande illusion. C'est une grande violence de croire qu'on peut soigner dans la juste distance. Elle nous vole en fait actuellement le temps d'écoute, le temps d'auscultation. Et je ne crois pas qu'on soigne en s'éloignant, hein. On soigne en se rapprochant. On ne soigne pas dans la juste distance, on soigne plutôt dans la juste proximité. Et encore une fois, là, quand on parle de juste proximité, on peut quand même et enfin se pencher sur le lien, le fait de réunir, de réunir un patient à un médecin dans le respect profond de ce de ce qui défend. On pourrait quand même se reposer la question du soin et de l'humanisme dans le soin. C'est ce que je vous renvoie, hein, c'est ce que fait Cynthia Fleury aujourd'hui. C'est parfois très compliqué, mais elle vulgarise un petit peu ça. ouvrages qui sont un peu plus faciles d'accès. Donc voilà, moi aujourd'hui j'ai un métier. Mais je crois que j'ai surtout une profession, et c'est ce que, en changeant de métier, j'ai pu définir, c'est quelle est ma profession. Et je crois que c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on pourrait peut-être inviter les jeunes à faire en tant que professeurs et nos enfants à faire. Quelle est la profession? Mais à travers ça, on peut faire beaucoup de métiers, on peut changer de métier, on peut s'adapter, on peut cheminer pour chercher son métier idéal. Mais c'est important de chercher qu'est-ce qu'on veut comme profession.
Bon.
Alors à partir de là, qu'est-ce que mon métier idéal pense peut-être celui que pratiquait un médecin dans la campagne anglaise dans les années 60 qui s'appelait John Cecil. Il y a un livre qui a été fait par un journaliste et un photographe qui l'ont suivi pendant quelques semaines et qui ont été assez subjugués par ce qu'il incarnait. Et je l'ai découvert ce livre, moi j'étais en troisième année de médecine et je vous avoue que je le gardais comme une bible sur mon bureau quand je revenais parfois de mes semaines de 7 jours sur 7, parfois avec 120 heures de boulot, des 24 heures, 48 heures où on finit par faire des bêtises, ne plus du tout être dans le communiqué, évidemment, puisque là ça devient totalement impossible. On est dans la gestion des corps, dans le tri des corps. J'ouvrais et je lisais et je regardais ces visages en fait photographiés, soit le visage du médecin, soit le visage du patient, et ça faisait du bien. Et donc ce médecin, il a carrément un petit peu le métier idéal auquel chaque chrétien a accédé, et je vous lis deux petites phrases qui me semblent assez éloquentes par rapport à ce communiqué que ce médecin incarnait parfaitement. Quand il parle avec un malade, qu'il l'écoute, c'est comme s'il le touchait avec ses mains, dans l'espoir d'être moins susceptible de se tromper. Et quand il examine physiquement ce malade, c'est comme s'il conversait avec lui.
J'ai passé un semestre en Argentine pour renforcer un peu l'espagnol. Et en revenant, j'ai eu ma licence et je me suis demandé qu'est-ce que je fais. J'avais envie de voyager, donc je suis parti vers l'Allemagne avec ma voiture, qui n'avait pas de jauge de chauffe, et j'ai serré moins de culasse dans les embouteillages parisiens. Donc après 800 km de voyage avec ma voiture, je me suis retrouvé à pied. Je suis quand même allé retrouver une amie en Allemagne qui vivait à Göttingen à l'époque, et je suis resté un peu là. J'ai trouvé, ça devait être septembre, j'ai trouvé un travail dans une ferme bio, et puis j'ai commencé à m'installer là-bas, à me dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Et puis, et en parallèle, j'étais inscrit à la fac en master de français et langue étrangère. Donc j'avais quelques cours de didactique, tout ça. Et puis on m'a proposé un travail d'assistant français dans un collège. Et donc je me suis retrouvé face à des élèves. Et le prof qui m'avait demandé, enfin qui m'avait embauché, lui se libérait du temps pour son boulot de directeur du collège. Donc il me laissait tout seul face à ses élèves en me disant tu parles pas allemand. Et moi je lui ai demandé un peu ce qu'il faisait pour avoir une espèce de projet pédagogique, tout ça. Il m'a rien donné comme bien. Donc moi j'ai commencé un peu comme ça à parler français avec mes élèves de 4e, 3e. Bon, ils sont un peu plus doués que les français, je pense, en langue étrangère. Mais ça n'allait pas chercher très loin, donc j'ai essayé. Et moi qui aime beaucoup la littérature, j'aime beaucoup la chanson, j'ai essayé de les faire bosser sur des chansons Brassens. Je me rendais compte que le niveau n'était pas là, puis j'avais passé un documentaire. Et en fait, je me suis rendu presque à la fin de mon contrat. J'aurais montré un documentaire de Jean-Pierre Jeunet qui s'appelle J'aime, j'aime pas. Et j'ai essayé de les faire travailler sur les différents degrés de l'appréciation ou de la dépréciation des choses. Et en terminant, on parle de j'aime, j'aimerais, enfin, bon, tout ça. Et à la fin, je leur dis, comme exercice pratique, on va faire un tour de classe et vous allez me dire chacun quelque chose que vous aimez, quelque chose que vous n'aimez pas. Et j'ai commencé par moi, donc pour en français, je vais dire j'aime le fromage et j'aime pas, je sais pas quoi.
Le poisson.
Par exemple. Et en fait, le premier élève, la première élève, ça je me souviens pas, a dit j'aime un tel et j'aime pas un tel. Et là, je suis venu vers direct, je me suis dit ça va finir comme ça. Et effectivement, tous les uns après les autres, ils ont profité de ça pour régler leur compte un peu. Et je me suis fait trouver face à mon échec pédagogique. Je me suis dit, mais en fait, c'est pas pour moi, ou pas dans ce système-là. Je sais pas si je serais un bon prof, en tout cas, j'ai besoin de travailler, mais j'ai pas envie. Et je suis rentré en France et je me disais, moi j'ai une mère qui est artisane, j'avais toujours un peu. Je suis né un peu dans les tissus, dans l'odeur du crin et éventuellement du cuir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas être artisan maintenant? Je parle anglais, espagnol, j'ai toujours envie de voyager, pourquoi pas trouver un métier que je puisse exercer un peu partout en fait. Et j'ai fait un CAP, donc je me suis inscrit en CAP à la Fédération compagnonnique des métiers du bâtiment à Toulouse. J'ai eu un peu de mal à trouver une entreprise parce que à cette époque-là, j'avais 26 ans, donc j'étais plus sur un contrat d'apprentissage que sur un contrat professionnel, ce qui financièrement pour les artisans n'est pas du tout la même chose. Mais ils m'ont rappelé 3 mois après, donc il y avait une formation pour adultes financée par le Pôle emploi. J'ai aussi bénéficié comme Pierre-Jean en fait d'un contrat de formation. Et donc j'ai appris la couverture il y a 10 ans. Et j'ai commencé à travailler. Alors moi, de toute façon, j'avais pas ni envie ni vocation au trépaloum, hein, parce que bon, j'ai quelques vieux restes de philosophie. Et aller monter des bâtiments neufs en béton, mal, avec des matériaux pourris qui seront. Enfin voilà, ça c'était pas du tout mon idée en fait. Et de bosser à la chaîne et d'étaler des mètres et des mètres carrés de tuiles. Avec un patron derrière qui dit il faut facturer, quand est-ce que vous avez terminé? Et avec la laine de verre et toutes ces joyeusetés. Du coup, j'ai toujours essayé de travailler un peu pour des entreprises qui font de la rénovation, et puis je suis tombé un peu par hasard, un peu, peut-être qu'il n'y a jamais de hasard, mais sur un groupe d'artisans et d'artisans allemands qui. En fait, il y a un reste du compagnonnage en Allemagne. Très peu en fait, de voyageurs et voyageuses d'actifs, il y en a 700 ou 800 constamment, en fait, mais il y en a constamment qui partent sur la route et d'autres qui rentrent chez eux. Mais le compagnonnage allemand a ça de particulier qu'il est un peu resté figé dans la forme qu'il avait il y a un peu plus de 100 ans. Donc on voyage tous en uniforme, avec On a peu de choses, on n'a pas de téléphone portable, mais on a qu'une seule parole. Et on donne la parole de ne pas rentrer chez soi pendant au moins la durée de notre voyage, de rester sur la route au moins 3 ans et 1 jour, de respecter notre parole, c'est-à-dire que si on dit « je serai sur un chantier à telle date, on y est », et de ne pas payer ni pour voyager ni pour dormir, pour s'alimenter naturellement, parce que si on attendait la charité des gens de nos jours pour vraiment manger tous les jours, ce serait compliqué. Mais au moins voyager en stop, tout ça dans l'idée de, anciennement, de sortir de chez soi en fait. Il a été dit en ouverture qu'avant on se définissait beaucoup par notre appartenance territoriale, et l'idée c'était ça, c'était qu'un jeune qui venait d'apprendre, qui avait travaillé, qui avait grandi dans son village, travaillé pour le même artisan, il devait partir un peu, s'il voulait devenir lui-même maître artisan, avant de rentrer à l'école de maître artisan, il devait aller voir le monde, les techniques régionales, et puis les techniques particulières, parce que c'est pas parce que son maître utilisait telle ou telle méthode pour résoudre un problème qu'il y avait un autre maître qui aurait une méthode qui serait pas ni moins bonne, ni meilleure peut-être, mais en fait que chacun a sa manière de travailler, qu'il faut apprendre un peu tout le monde. Donc j'ai fait ce voyage-là pendant un peu plus de 4 ans. Je suis parti de... Alors moi j'avais déjà un peu voyagé dans ma vie, donc je suis pas parti très loin en fait, j'étais pas mal au Danemark, j'étais un peu en République tchèque, j'étais pas mal en Suisse, en Autriche, en Espagne beaucoup aussi, et un peu en France, et beaucoup beaucoup en Allemagne. Mais... Et j'ai réussi un peu à composer ma vie comme ça, c'est-à-dire que maintenant j'ai une guilde allemande avec des gens qui éventuellement je peux aller trouver du travail un peu n'importe où, je maîtrise 3 langues indo-européennes. Et en fait, c'est un peu ça mon idée de l'activité. Moi, je dis très peu que je travaille, je labeur en fait. Et là, je reviens chez une cousine qui est paysanne, qui fait de la traction animale, tout ça, qui vit aussi un peu de manière autonome et ralentie. Et pour aller monter une grange chez elle, donc j'étais avant-hier encore en Bourgogne. Je suis allé 2 fois ces 6 derniers mois en Allemagne. Je continue à voyager, à vivre ma vie professionnelle, bon, déjà comme une passion, c'est-à-dire que je travaille avec les gens avec qui j'ai envie de travailler et souvent sur les chantiers que j'ai envie de faire, mais aussi un peu comme une recherche de... Bon, moi j'ai toujours été assez militant politique et j'ai souvent fait des manifestations, je me suis rendu compte que je n'étais pas quelqu'un du premier rang, je ne suis pas un guerrier, je suis un constructeur en fait. Et je choisis mes chantiers beaucoup pour ça, c'est-à-dire que je vais soutenir des projets d'habitat collectif, des jeunes couples d'agriculteurs qui s'installent, et c'est ça qui donne sens à ma vie et à mon labeur, je cure. Voilà. Je ne sais pas, je pense que je n'ai pas rempli le quart d'heure, mais je n'ai pas grand-chose d'autre à raconter.
Tu serais, est-ce que tu peux nous parler peut-être de ta transition, de ta formation ici en France, tes premières expériences, non pas en France d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais été à droite à gauche au Danemark.
Ça, il m'a semblé dire que j'ai travaillé un peu partout. Après mes premières expériences, j'ai fait un CAP dans un centre de formation, tout ce qu'il y a de plus normal, donc j'ai bouffé du chantier, j'ai choisi un peu mes stages, j'ai été un peu faire de tuiles plates dans l'année, enfin, j'ai toujours moi choisi de bouger pour travailler, j'ai été faire un peu d'ardoise dans les Pyrénées, après pour parler un peu plus de la manière dont je travaille, c'est vrai que en m'organisant et notamment avec ces Allemands-là, mais avec d'autres gens, on fait beaucoup de chantiers qu'on organise nous-mêmes en fait. Il n'y a pas vraiment d'entreprise, souvent on n'est pas rémunéré, l'idée c'est de réaliser des projets. En fait. Donc là j'ai des projets notables pendant mon voyage, on a construit une très grande charpente dans un village de Galice, qui est un village qui avait été abandonné pendant plus de 20 ans, puisque sur le fleuve, il y a eu 4 barrages qui ont été construits en 200 km à la fin du franquisme, je crois, jusqu'au milieu des années 70. Donc il y a énormément de villages qui étaient des villages de montagne, puisque les paysans avaient le village d'hiver au bord de la rivière, et un village d'Estive. Dans ces vallées-là, il y a plus de 50 villages sous l'eau, mais restaient les villages d'Estive, qui ont été occupés depuis les années 80-90, plus ou moins légalement d'ailleurs, mais qui ont survécu, parce que le problème de ces coins-là, c'est que quand le toit tombe, ce ne sont que des murs en pierre, en pierre de schiste maçonnée avec la terre qui est sur place. Dès que ça prend l'eau, les maisons tombent en moins d'une dizaine d'années. Et on est allé refaire donc, tout un toit. Donc là, on est arrivé à 35 artisans, mais nous, on était 5 à préparer ça sur toute l'année. Et on allait couper les arbres avec le collectif, on a débité tout, on a sorti, je crois, 120 poutres, on avait tombé 80 arbres à peu près, des châtaigniers, on a tous les coupés à la tronçonneuse, enfin, on a préparé tout notre matériel, la piste pour les sortir de la montagne. Et donc moi, c'est un peu ce genre de chantier qui me forme et qui me font vibrer. L'été dernier, le groupe avec lequel j'ai voyagé, parce que maintenant je suis sédentaire, avait refaisé le toit d'une église d'usine à côté de Barcelone, une usine du début du XXe siècle. Et comme beaucoup à l'époque, on construisait l'église directement, ou au moins une chapelle directement dans l'usine, que les ouvriers puissent aller à la messe le dimanche, et puis qu'on puisse surveiller quels ouvriers vont à la messe ou pas. C'est, en fait, c'était surtout beaucoup ça. Parce que souvent, ceux qui n'allaient pas à la messe, ils allaient à d'autres réunions. Donc voilà, je vais peut-être laisser la parole ou passer un tour de questions.
Je pense que même si la France c'est pas non plus, mais c'est quand même. Et il existe plein d'organismes qui permettent de rémunérer des formations. Moi maintenant que je suis que j'ai un parc à Courage par exemple, nous on cotise à l'AFDAS, donc c'est pas un FOGC, c'est l'AFDAS. Et cette AFDAS prélève de l'argent sur des gens comme moi qui sommes des indépendants et qui travaillons, et avec ces cotisations, ils ont de l'argent pour pouvoir payer des formations. Donc, moi je t'invite à te rapprocher, à chercher, il faut chercher auprès de d'associations, de syndicats, de partout où tu peux ouvrir les portes, frapper une porte. Et après, moi j'ai bénéficié, moi je savais même pas que ça existait un FONGC, quoi. Je savais pas. Un jour j'ai rencontré quelqu'un, peut-être que ce soir, grâce à moi, je vais dire, ah putain, il y a des CIF. Parce que bon, ça s'appelle FONGC, mais ça peut s'appeler aussi CIF, congé individuel de formation. Alors moi je te parle d'il y a 25 ans, peut-être que la source c'est un peu plus tarie, mais je pense qu'il y a moyen de trouver, de frapper à des portes et de trouver des organismes qui... FONGC, quand tu montes un dossier, t'es pas sûr de l'avoir. Il y a une commission qui se réunit, il faut que tu aies un projet derrière. Ils ne donnent pas non plus de l'argent comme ça. Il ne faut pas croire. il faut montrer de l'envie. Voilà, donc je t'invite à gratter, hein. Faut gratter. Si vous avez d'autres solutions, si vous connaissez, dites-lui. Hein.
Je te relance un peu, mais tu m'as dit aussi que tu as fait beaucoup de rencontres avec des gens qui t'ont vraiment ouvert les portes sur un petit peu un monde que tu connaissais pas, quoi.
Oui, moi je voulais ajouter ça. Je pense que c'est très important de prendre le temps. Quand on a une idée un peu comme ça, c'est très important d'aller rencontrer les gens qui pratiquent ce métier. Au départ, moi, quand je me suis reconnue du métier de sage-femme, bien sûr, je pensais que j'étais totalement incapable de devenir médecin, que j'étais puissamment incapable. Et en fait, quand on a la volonté de faire quelque chose, on peut faire beaucoup. Mais on a la volonté parce qu'on a vraiment réfléchi à ce qu'on veut faire. Et on a rencontré des gens extraordinaires qui le font et ils nous inspirent. Et donc, je pense que la rencontre, elle est essentielle. Et en fait, moi, j'ai rencontré des sages-femmes au début, mais elles m'ont dit, mais t'es folle, t'es complètement folle de faire, j'avais 33 ans, t'étais totalement folle de faire médecine, de faire sage-femme à ton âge, je fais médecine. Je voulais regarder, parce qu'elles m'ont dit, c'est quand même une école de bonne sœur, donc tu vas devoir faire exactement ce qu'on te dit. Et ça va être très difficile. Et à mon avis, après, la salle d'accouchement, c'est très beau d'accoucher une femme, mais la salle d'accouchement, c'est épuisant. On l'a fait au début de carrière. Après, on a envie de faire autre chose. Donc ça m'a fait réfléchir. Je n'avais pas imaginé que faire 10 ans de médecine, ça allait faire 10 ans de salle d'accouchement, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et c'est vrai que, du coup, je suis allée voir, je suis juste à Tarbes, et je suis allée voir un gynécologue, M. Cassarani. Parce que je voulais voir des accouchements, et bon, il se trouve que je suis allée le voir lui pour un accouchement, et puis à un moment donné, il s'est retourné vers moi, mais il m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas médecine? Alors là, je l'ai regardé, mais je fais médecine, mais il m'a dit, bah oui, médecine. Et puis j'ai cheminé comme ça. Et puis en fait, je me suis rendu compte que en faisant médecine, j'allais davantage trouver ce que je voulais, parce que ça allait m'apporter. Des possibilités infinies de conditions de travail, et je n'allais pas avoir un métier, j'allais vers un parcours qui allait me permettre de faire plein de choses différentes. Donc c'est important de prendre le temps et des rencontres. Et puis après, aussi de savoir comment chacun a fait ses études, parce qu'effectivement il y a des conditions matérielles, mais moi j'ai eu de la chance, mais on travaille aussi, on travaille très vite quand on est en études de médecine, donc on est assez rapidement lié. Et j'avais une congénère qui avait le même âge que moi, qui a fait le concours juste après moi. Elle avait pas un rôle quand elle a commencé. Et elle s'en est très bien sortie. Bon, elle a fini par faire sa chaîne, elle a quand même fait son parcours de début. Puis au bout de 3 ans, elle a commencé à travailler. Mais voilà, c'est important de rencontrer des gens, de rencontrer des gens qui font métier. Ça, c'est la base, pour la soirée.
Oui, bonsoir à vous quatre. Au-delà de la diversité de vos très beaux témoignages, je pense que vous avez en commun une grande curiosité et un goût effréné de la liberté. Je crois que la liberté pour vous, c'est quelque chose d'essentiel, ce que je comprends.
Oui, non, bah, je ne vais pas porter en faux. Hein. Je pense que tous les choix que j'ai faits, je les ai faits aussi pour rester libre. Après, on peut discuter très longtemps de la notion de liberté, hein, est-ce qu'on est vraiment libre, est-ce que... Mais en tout cas, la liberté, et je vais en revenir aux rencontres, en fait, la liberté d'accepter la rencontre et d'accepter les possibles qu'elle engendre, en fait. Sans oublier que quand on ouvre des portes, on en ferme d'autres, mais ça c'est un cheminement aussi.
Moi j'ai été frappé.
Ah pardon. Non, pendant très longtemps j'ai transgressé moi, pour être libre. Parce que je pensais que pour être libre,
il fallait transgresser. Bon, au-delà de l'aspect professionnel, j'ai fait pas mal de stages de développement plus, comme vous voulez, thérapie, développement personnel. Et j'ai appris qu'on pouvait être libre dans un cadre. La liberté, vous avez par exemple Nelson Mandela qui a vécu je ne sais plus combien d'années emprisonné dans une pièce qui faisait 5 mètres carrés, qui allait dans la cour, et on lui a jamais enlevé sa liberté de penser, quoi. Bon, je suis moins fan de Florent Pagny, mais voilà, quoi. Mais c'est vrai que moi je suis très attaché à la liberté, tout en respectant un cadre. J'ai mis longtemps de comprendre ça. Aujourd'hui, peut-être que demain, je vais dire non, mais le cadre, je le fais péter. Je me donne la liberté de faire péter le cadre aussi. Le droit d'essayer de le faire. Voilà.
Oui, moi je me trouve courageux parce que dans ce que j'ai pu lire sur le travail, c'est un des outils et des moyens d'être reconnu, bien ou mal, satisfaisant ou pas, mais c'est une façon de trouver sa place dans la société. Et vous avez traversé, passé de l'autre côté, c'est-à-dire vous avez passé, l'obstacle qui consiste à laisser tomber cette reconnaissance. Et je voudrais savoir si dans la nouvelle vie, entre guillemets, que vous avez reconstruite, retrouvée, est-ce que vous avez trouvé cette connaissance, ou est-ce que vous l'avez trouvée, ou est-ce que vous l'avez retrouvée?
Un petit truc à dire à ce sujet. C'est vrai que moi, pendant de nombreuses années, souvent quand on se rencontre, il a noté, enfin, c'est qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que tu fais dans la vie, quoi? Voilà. Et on est défini par notre profession, quoi. Donc moi, encore aujourd'hui, quand on me voit, on ne me dit pas « Pierre-Jean, tu vas bien ?» On me dit « Tes abeilles ?» « Ben, vous voulez tes abeilles ?» Et alors moi, je regarde les gens, je leur dis « Quoi, mes abeilles ?» Les abeilles, demande-moi si moi je vais bien, quoi. Déjà, si je vais bien, mes abeilles, elles peuvent aller pas trop mal. Mais c'est vrai que oui, oui, on est défini par... Et moi, ça m'a gavé pendant de nombreuses années, ça me... Et qu'est-ce que tu... Et c'est quelque chose que j'essaye quand... voilà, quand je discute avec des gens, justement, j'ai commencé l'introduction en disant « Je suis Pierre-Jean et je suis Pierre-Jean. J'exerce comme apiculteur, j'ai un apprenti, mais je reste quand même un être humain avec... voilà. Tout ce qu'il y a de bon et de mauvais.
Oui, on peut dire que la maîtrise, c'est d'abord et avant tout l'apprentissage de la désillusion. Et comme ça, quand on devient libre, c'est quand on perd tous ces idéaux et qu'on se contente de faire profession. C'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup.
Bonsoir, je voulais vous remercier pour vos témoignages et des choses que vous avez dit les uns et les autres qui ont beaucoup vibré au regard de mon propre parcours. Mais il y a quand même deux choses qui m'intéressent d'entendre de votre part. La première, c'est que, comme moi-même j'ai pu le vérifier, souvent, vous avez parlé de rencontres, vous avez parlé de voyages, de curiosité, d'ouverture. Mais j'ai souvent remarqué qu'il y a des choses qui sont de cet ordre qui sont possibles parce qu'on est soutenu. On est soutenu ponctuellement ou sur une certaine durée par des personnes, pas forcément de la famille, pas que en tout cas, mais des personnes qui croient en vous ou en tout cas qui à un moment donné ont été au bon endroit pour donner le soutien nécessaire de franchir un cadre. Et je voulais savoir, alors peut-être que je m'éloigne du thème du travail, mais je pense que ça en fait partie, je voulais savoir, vous allez jusqu'où ce que vous voulez, mais dans quelle mesure ça a joué pour pouvoir faire ces transitions, ou ces passages, ou aller d'une étape à l'autre, ou d'un pays à l'autre. Et la deuxième question que j'ai, c'est quel est votre regard, pour certains vous avez voyagé, quel est votre regard sur cette possibilité d'évolution dans une même vie en France, comparée à d'autres pays? Vous avez parlé de l'Allemagne, c'est un pays que je connais aussi bien. Et voilà, comment les choses peuvent être envisagées? Parfois en France, je me dis que c'est un peu figé, mais peut-être que je me trompe. Merci.
Oui, bon, il y a beaucoup dans la question. Après, moi j'avoue que je réfléchis assez peu en termes d'évolution. Enfin, je vis ma vie, mais j'ai jamais eu de plan de carrière. Après, est-ce que c'est plus facile? Il y a des statuts en tout cas qui sont plus faciles en Allemagne, enfin, statut micro-entrepreneur, Rise Developer Carter, pour ne pas citer que ça. Mais, qui facilite ce genre de choses. Après, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir une entreprise quand on n'est pas maître artisan et que l'école de maître artisan, bah, ce sont des modules qui se payaient. Donc, je pense qu'à chaque pays, c'est sa réalité. Après, est-ce que de nos jours, les institutions appuient plus les grosses entreprises ou les petits entrepreneurs, c'est aussi une bonne question, hein, que ce soit dans l'agriculture, dans l'artisanat ou partout en fait. Mais je vais d'abord répondre à la question du soutien en fait, parce que je pense que vous aviez commencé par ça. Et bon, moi j'ai mes parents qui sont venus me soutenir ce soir, hein, pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi. Mais c'est évident que qu'être entouré, c'est quelque chose de très important. Mais en même temps, quand on entend Pierre-Jean qui dit moi mes parents ils m'ont traité tous les noms d'oiseaux quand j'avais quitté l'Arsenal, effectivement le soutien ne vient pas forcément de la famille. Je pense que isolé, on fait rien, ou en tout cas peu de choses. En tout cas j'ai un souvenir moi, très particulier de quand j'ai commencé ma formation. J'ai vu le père de mon père, hein, qui n'y avait pas pour la dernière fois, mais en tout cas, une des dernières fois dans son appartement à lui, j'étais de passage à Paris, et on me dit, mais après Guinée, en fait, il m'a posé des questions très précises de Charpente. Et c'est quelqu'un qui avait fait Centrale Paris, enfin, qui était un ingénieur à l'ancienne, donc il avait eu des gros postes. Et je pensais pas qu'il s'intéresserait à ça, en fait. Il m'a posé des questions très précises, et même si j'avais plein de désaccords avec cet homme-là, c'était mon grand-père et je l'aimais, et je me suis senti reconnu en fait. Et pour moi, c'est une expérience en tout cas qui m'a marqué. Enfin, j'y repense encore à cette discussion, j'avoue encore. Mais peut-être que ça suffit, mais effectivement, on ne fait rien tout seul.
Après, question
de développement d'entreprise, tout ça, je pense que c'est plutôt Pierre-Jean, hein, qui peut répondre à ce genre de questions.
Est-ce qu'il y a des sacrifices à faire de quand on passe comme ça de mes parents à la retraite et quand on demande certaines positions,
Micro.
Vous voulez dire par là que quand on quitte un endroit où on est. Moi j'ai gagné en insécurité, quoi. Quand je suis parti de l'Arsenal, j'ai gagné en insécurité, quoi. J'ai gagné en précarité. Mais j'ai gagné en liberté. Donc voilà, à un moment donné, c'est des choix de vie, quoi. Moi, je me souviens très bien quand je me suis mis à temps partiel à l'Arsenal. Déjà, pour avoir le temps partiel, j'ai dû me battre pour l'avoir. Après, on m'a fait comprendre, mais qu'est-ce que tu veux, toi, tu veux continuer à temps partiel et t'habites où, quoi? T'es à l'Arsenal ou t'es à l'extérieur, quoi? Et moi je suis les deux. Et donc on m'a pas trop aidé en termes à l'usine. J'ai réussi à avoir du temps partiel qui m'a permis de monter mon entreprise à l'extérieur. Mais je sais qu'il y avait des gens qui m'ont carrément mis des bâtons dans les roues, quoi. Et ce qui est rigolo, c'est que moi je me souviens d'eux, il m'a fait chier, hein, le gars, il m'a fait chier. Et quand je suis parti, ce même gars, François Pujol, je m'en souviens d'un truc de ma vie, tu sais. Donc, personne qu'on n'oublie pas. Il m'a dit, putain, Pierre-Jean, ah ouais, tu m'as fait rêver, quoi. Tu vois. Venant de lui, j'étais là, je suis tombé. Alors qu'il m'avait emmerdé et je sais que j'en ai eu un peu des frissons, mais quand je m'en rendais pas compte à l'époque, mais je crois que j'en ai fait rêver plus d'un Arsenal d'avoir ce parcours-là, quoi. Qui me voyait à mi-temps, qui me voyait partir bosser en Cagnon. Alors souvent quand je me faisais 6 mois, donc je faisais la saison pendant 3-4 mois, puis en fait pendant 2 mois je partais en Amérique du Sud, ou je partais au Maroc, en fait. J'avais une vie et je les faisais, j'en ai fait rêver plus d'heure, quoi. C'est après que je m'en suis rendu compte. C'est par ce témoignage de ce gars-là que je voyais aujourd'hui, je m'en fais rêver, quoi. Pour un fou rien, pardon, j'ai les mots un peu gras, mais je m'en excuse. Voilà. Et après, oui, après les rencontres, moi personnellement, ma famille, m'a pas, mes parents m'ont pas soutenu, quoi. Donc ils m'ont traité de fou, jusqu'à croire que j'étais fou, quoi. Mais ça, je l'avais déjà de mon plus jeune âge, dès que j'avais tout le temps des idées un petit peu qui. Je ne correspondais pas à ce qu'ils auraient voulu pour moi, mais moi je ne leur en veux pas parce que c'est de la peur qui témoignait. Quoi. Donc ces gens-là, quand vous rencontrez des gens-là, ces gens-là, ces personnes-là, il faut les contourner. Quoi. On ne s'appuie pas sur des gens comme ça. Quoi. On va voir des gens qui vous disent mais vas-y, va au bout de ton rêve. Quoi. Donc, on fait de l'évitement. Il faut éviter les mauvaises.
Ce que je voulais dire, c'est que je crois que le titre de la conférence des témoignages de ce soir serait peut-être nul et non avenu dans certains pays. Changer de métier, pourquoi en faire une question aux États-Unis, par exemple, on change de métier tous les 6 mois. Et puis peut-être qu'aujourd'hui, de plus en plus, on va en faire une non-question. C'était peut-être il y a 15-20 ans, quand on a commencé à... Je crois qu'on est vieille, ça fait 20 ans maintenant, quand j'ai commencé à imaginer ça. Oui, effectivement, c'était quelque chose d'assez fou. Aujourd'hui, faire médecine, après avoir fait autre chose, ça va devenir presque la règle, puisque les études de médecine évoluent pour que justement on puisse intégrer des gens qui ont fait autre chose. Donc, je pense que dans d'ici 15-20 ans, ça va être la règle de changer de métier et de voilà. Et je me souviens d'ailleurs que quand j'ai eu le concours de médecine, je suis partie voir une amie en Italie. Et elle a invité une amie qui était allemande. Voilà, c'était déjà l'Europe, on avait 30 ans. Et donc, évidemment, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je viens de faire médecine, je viens de faire le concours de médecine. Alors, si quand je disais ça en France, on me disait, ouais. Alors là, elle m'a dit, ah ouais. Voilà. Tout était dit dans le ah ouais. C'était normal, quoi. Ben oui, on a 30 ans, on change de métier. Voilà. Je pense que ça va devenir une non-question, la question dans le numérateur ce soir. Et puis pour la première, qui était le soutien. Bien évidemment, tout ce qui bien évidemment, si vous voyez mes parents qui étaient là. Bon, quand je leur ai dit que j'allais faire médecine, j'ai entendu un grand silence quand même. Ça a duré quelques secondes, mais je pense qu'ils savaient que de toute façon, ils avaient décidé que rien à faire, je ne changerais pas. Et puis il y a une autre personne qui est dans la salle aussi, Marie-Thérèse, que je pense que là, je suis encore plus.
Une question peut-être un peu trop personnelle ou indiscrète, je ne sais pas. Si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondrez pas. Vous avez parlé de votre liberté de choix. Est-ce que c'est compatible ou pas avec une autre personne que soi, c'est-à-dire un couple, une famille traditionnelle ou pas? Et avec éventuellement des enfants.
voilà, donc mon ex-compagne aussi est décédée. Donc la vie ne m'a pas forcément épargné. Mais oui, tout est compatible dans la mesure où, effectivement, il y a toujours un aspect matériel qui rentre en ligne de compte, quoi. Donc moi, j'ai, par exemple, je vous ai parlé que j'essayais de voir si je pouvais aller faire les saisons aux Antilles, passer un brevet d'État pour faire de la plongée sous-marine. Bon, mais par exemple, ce petit rêve que j'avais, je l'ai abandonné parce que j'avais une compagne, que j'avais déjà une petite fille et que je ne me voyais pas partir 4 mois de l'année aux Antilles, quoi. Voilà. Après, je veux dire, un couple a tout à y gagner avec une personne qui rentre avec la banane, qui a passé une bonne journée à travailler ou à, bon, on le dira comme on veut, ou à œuvrer, ou à, qu'avec quelqu'un qui bosse et qui se fait chier au lot et qui fait la tête, et qui fait la tête, et que du coup son couple il ramasse quand même. Il ramasse parce qu'il n'est pas bien et où elle n'est pas bien. Et du coup, il y a d'autres enjeux et ça n'a rien à voir avec la relation dans le couple, quoi. Et les enfants. Moi, mes enfants, ils ont gagné à ce que je change de boulot. Parce que j'étais mieux. Ça m'a amené. Ça n'a pas longtemps. Mais parce que j'ai cru très longtemps que le travail. Bon, ça, c'est aussi un aspect. Pendant très longtemps, j'ai pensé que le travail pouvait faire qu'on était bien soi-même. Ça y contribue. Moi, j'invite tous les gens à faire un travail qu'ils aiment. Mais si vous n'êtes pas bien avec vous-même, et ouais, là, il faut travailler. Mais sur soi. Voilà.
C'est le grand paradoxe français, je disais tout à l'heure que les deux tiers des Français veulent se réaliser au travail et la moitié des Français en même temps déclarent qu'ils sont malheureux au travail. Il y a peut-être une relation.
Peut-être que vous abordez aussi la question entre formation et études. Formation, on étudie quand on est au travail. Les études, c'est on étudie après le travail. Donc je ne sais pas comment font les gens qui ont des enfants pendant qu'ils font leur étude de médecine. Pour ma part, moi, j'ai eu mes enfants quand j'étais interne. Bon, je pense que je paye cher aujourd'hui, peut-être. Dans tous les cas, ce que j'ai gagné, c'est que mon conjoint, une fois que j'ai terminé mes études, il m'a dit que lui, il allait en reprendre aussi. Œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est enrichissant. Et effectivement, quand il m'a dit ça, c'est parce qu'il était dans une impasse et qu'il fallait qu'il évolue. Et il est très heureux dans son métier. Mais j'ai largement été étudiante en assistance sociale, après avoir été étudiante en médecine. J'ai largement contribué à son mémoire et à ses stages. Et, c'est aussi une aventure, j'ai envie de dire. Le changer de métier, c'est une aventure de vie. C'est la vie, c'est pas une vie en plus de la vie. Et à partir du moment où on fait de la vie, et pas une contrainte, forcément réussir à faire quelque chose. Mais il faut vraiment le concevoir comme une aventure de vie. Et c'est ce que j'ai essayé de dire aux gens quand ils disaient « Oh, et maintenant tu fais des études de médecine, c'est horrible », mais non. Alors oui, il y a des aspects terribles dans cette formation, c'est autre chose. Mais en soi, c'était passionnant. J'étais à 3000% dans la vie. Je pense que j'ai bien plus de chance de vivre ça que de continuer ce que je faisais, c'est-à-dire de m'ennuyer, d'aller me coucher à bien à cette humeur-là. J'étais dans la vie. C'est ça qui est génial.
Qui se prête difficilement à la vie de couple si si ce nomadisme-là n'est pas partagé. Après, c'est tout à fait possible aussi de le partager. Je pense que, mais bon, c'est peut-être pas le débat de ce soir, mais on pose la question du travail, on peut aussi poser la question du couple et pas forcément de la famille, mais en tout cas de la manière de vivre. Hein. C'est-à-dire qu'on vit aussi une époque où on peut encore se déplacer, s'installer très rapidement à un endroit et tout ça. Voilà.
Mais déjà, dans le sens du bonheur, dans une situation très, très simple.
Je pense que si y'en a qui n'ont pas entendu, elle témoignait d'une personne qui a 68 ans, 69 ans, qui est cordonnier et qui continue son métier, son travail, son œuvre et qui s'y retrouve. Mais ça, ça appartient à chacun. Hein. Moi, personnellement, je ne compte pas travailler jusqu'à 68 ans. Par contre, je compte transmettre, donner de mon temps sans rémunération. Voilà. Donc m'inscrire à quelque chose de plus de filer des coups de mer avec ce que moi j'ai comme connaissance par rapport à mes différents boulots et voilà. Mais enlever la rémunération. Parce que travail et rémunération, c'est là que travail ça devient rémunération. C'est pas. Moi je suis pour le revenu universel. Nous sommes deux. Est-ce que vous avez encore des questions
maintenant? Eh bien, ça tombe bien, la transition est bonne. Je voulais demander à Valentin, justement, qui nous a dit tout à l'heure qu'il faisait beaucoup de chantiers plus ou moins bénévoles. Comment il vit, puisqu'il est toujours. Par nous et par vous, pour faire des charpentes, des couvertures. Comment il y a une manière?
Il vient de me taxer 10 euros. Hein.
c'est toi qui rentres ce soir d'ailleurs. Mais bon, alors, moi je vis là en grande partie du RSA. Après, moi j'ai un grand problème à me faire payer en fait. Je ne sais jamais combien vaut mon travail et tout ça. Et du coup, je m'inscris complètement à ce que disait. Pierre-Jean à l'instant, en fait. Moi, j'ai un problème à la rémunération, en tout cas très clairement. Là, en ce moment, je suis du RSA, de travailler au bac. Là, j'ai monté, je parlais de ma cousine tout à l'heure, je suis redescendu avec. J'ai été payé en nature, en grande partie, avec des tonnes de fromage, de la bonne farine, de la blanquette et tout ça. Et puis un peu de cash, hein, mais je suis pas grand-chose. Mais parce que j'ai aussi la possibilité d'avoir cette vie-là. J'ai hérité d'un appartement où j'ai pas d'emprunt, j'ai pas d'enfant. Voilà. Il y a, comment dire, j'ai eu la possibilité de faire ces choix-là, en tout cas. Et pour l'instant, ben, je vis des deniers d'État, mais bon, ça ne dure pas très longtemps. On se fait assez vite radier le URSA, ils font la chasse aux pauvres d'ailleurs en ce moment. Après, moi j'ai aussi un travail qui permet de trouver une mission d'intérim après-demain si j'ai envie. Hein, ça ne me fait pas rêver d'aller monter des lotissements, mais ça je peux me lever demain, j'ai du travail.
Je voulais poser une question à notre Européen multilingue qui connaît tous les pays de l'Europe. dans lesquels il n'a pas fait simplement du tourisme. Le tourisme où on va 15 jours dans un pays, mais lui, vous avez bien travaillé. Et on retombe sur le problème du travail. Vous avez donc connu bien les gens dans les conditions du travail. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez senti qu'ils étaient européens? Est-ce qu'ils étaient contents de parler de la France avec vous? Est-ce que c'est important, parce que nous allons avoir des élections européennes, et c'est important votre témoignage pour savoir s'il y a un esprit européen dans les différents pays que vous avez rencontrés dans les conditions du travail.
Bah, bien entendu, enfin, je pense qu'on est tous curieux et on est quand même à une époque où plus que de se sentir européen, je pense qu'il y a plein de gens qui se sentent citoyens du monde et qu'il y a un gros pendant aussi avec une montée de l'extrême droite et un identitarisme qui est très clair et qui est, alors pour répondre plus à ce genre de questions, en Allemagne de toute façon c'est très clair. C'est-à-dire que dès le lycée, souvent, il y a des bandes de jeunes fachos qui ont utilisé volontiers de la symbolique nazie. Mais du coup, en face, les gens qui sont plutôt humanistes s'organisent. Et donc, il y a aussi un grand mouvement de gauche et de gens qui sont organisés. Et il y a un humanisme européen qui est, je pense, est palpable partout. Après, dans le bâtiment, ça dépend un peu des entreprises dans lesquelles tu travailles. Parce que quand tu es au fin fond de la Saxe, entre Dresde et la frontière tchèque, le collègue de 50 ans, il met plutôt un bulletin brun dans l'urne qu'un bulletin communiste. Alors, et que ça, souvent, enfin, je veux dire, les gens qui sont les plus identitaires, ils sont les moins ouverts à la vie autour d'eux. Mais bon, je pense qu'il y a quand même un sentiment européen de la part de la jeunesse, en tout cas. Il n'y a qu'à regarder les vendredis pour la planète, je pense que. Dans une grande majorité, la jeunesse se sent citoyenne du monde plus qu'héritière d'une culture qu'au final, en plus, elle maîtrise très peu. Enfin, si tu interroges aujourd'hui les jeunes sur la littérature classique française, ils vont plus connaître El Pokora et les films de Hollywood que Laclos ou je ne sais pas ce qu'ils étudient en ce moment pour le bac de français. Mais, voilà, je pense qu'il y a une volonté de faire tomber les frontières et qu'il n'y ait pas qu'une idée européenne. Et en même temps, on les construit en parité dans une forteresse. Donc, aller chercher les aberrations, les contradictions.
Pas d'autres questions de la salle?
Je voulais demander à Mathy au sujet de la vocation de sage-femme. Tu as parlé en général qu'il pouvait y avoir une influence du milieu social dans l'orientation professionnelle. Mais par exemple, les sages-femmes en France sont sous la coupe des médecins gynécologues et coucheurs. Alors qu'un pays, par exemple, comme la Hollande, si la majorité des accouchements se font à la maison, avec des sages-femmes, bien sûr, on a vérifié au préalable que la grossesse n'était pas à risque, hein, par des échographies, etc. Mais, en définitive, la place des sages-femmes est plus importante aux Pays-Bas qu'en France.
Oui, je crois qu'il y a à peu près plus d'un tiers des femmes aux Pays-Bas qui accouchent à la maison, donc plus d'un tiers, et personne ne meurt aux Pays-Bas. On en revient au pouvoir médical en France, même si les sages-femmes font partie des métiers médicaux. Elles ne sont pas classées en paramédicaux, mais médicaux. C'est le même concours. Mais oui, on en revient au pouvoir médical.
pouvoir que donne ce métier, qui m'interroge beaucoup, à la fois parce que c'est le pouvoir qu'il m'a donné, mais le pouvoir qui me terrifie, qui me dérange, pouvoir que je ne pense pas avoir du tout, et puis m'intéresse pas à ce pouvoir en tant que pouvoir, comment dirais-je, de l'établissement, dont j'ai parlé encore aujourd'hui. Oui, c'est comme si les médecins et le pouvoir médical, je pense, enfin voilà, ça fait partie de mon cheminement aujourd'hui. J'ai pas encore répondu avec moi. J'en parle beaucoup avec moi-même. C'est une belle conclusion aussi de se dire que c'est pas parce qu'on a changé de métier qu'on a fini quelque chose. Non, on est en devenir, on est en cheminement. Et même au sein de son propre métier, je pense que quand on est en cheminement, on n'est jamais vraiment totalement satisfait, ou en tous les cas, on a enclenché quelque chose, une évolution qu'on ne va pas s'arrêter. Et il y aura toujours ce type de questions qui va s'imposer. La question du pouvoir médical, c'est une vraie question, pour moi en tous les cas. Et pas que pour moi, je pense. C'est une vraie question.
Ouais, je voudrais aussi poser une question à Mathilde, si on a encore 2 minutes. On a eu une soirée sur le soin il y a quelques jours. On a eu quand même un aperçu assez négatif sur l'hôpital. Après, toi, tu nous présentes un aspect beaucoup plus nuancé, puisque c'est ton choix. Tu nous parles maintenant du pouvoir médical. Et je voudrais te demander si dans ton vécu de médecin aujourd'hui, quelle part tu fais à ton idée de communiquer, dans laquelle je vois un peu une idée de service. Est-ce que ce côté-là, ça te parle? Est-ce que ça t'apporte quelque chose par rapport à tes aspirations, par rapport à ta profession dont tu as parlé? Est-ce que ça a une place?
Complètement, évidemment, et c'est ça qui m'intéresse. Pour aller à l'hôpital, hein, moi, c'est un endroit qui me terrifie. J'ai passé quoi, 10 ans, 9 ans, et le jour où j'en suis partie, le soir où j'ai terminé, ça a été un soulagement incroyable. Je ne pourrais jamais remettre les pieds en tant que professionnelle. J'ai mis un tout petit peu les pieds, mais pour être médecin de prison, donc je n'étais pas vraiment à l'hôpital, j'étais en prison. Et c'était génial, hein, c'était magnifique comme lieu de service, justement. C'est fou comme on découvre dans ces lieux où on parque des gens qui sont différents. En fait, on s'aperçoit qu'il n'y a que des êtres humains en face de soi, et que puis en étant soi-même et en laissant les autres être soi-même, qu'on arrive à échanger des choses incroyables. Tout simple, voilà, incroyablement simple. Donc moi, je me retrouve en ce moment, je travaille à la ville avec des adultes handicapés, et j'étais pétrifiée avant d'y aller. Le médecin que j'avais remplacé était médecin à l'abbaye, donc je me suis dit, bon, ben, je vais essayer de continuer sa mission. J'étais pétrifiée le jour où je suis arrivée. Et puis en fait, moi, je me suis rendu compte qu'il suffit d'être soi-même, souvent, ça aide beaucoup. Enfin, l'hôpital, il traverse une crise, je crois, on le sait tous, particulièrement à table, en plus. Mais je sais plus quelle était vraiment la question, mais oui, bien sûr, je pense qu'on ne peut pas se départir de l'idée de service, de l'idée d'office. Hein. C'est le métier, c'est un office. C'est s'oublier un petit peu, donner le meilleur de moi-même au service de ce que l'on fait, au service de ce qu'on a choisi de faire. Et c'est ça qui me rend peut-être un peu heureux de rentrer à la maison le soir.
Bonsoir, je vais rebondir sur ce que vous avez dit concernant la transmission. Comment peut-on transmettre dans le présent et dans le futur à partir d'expérience professionnelle et on voit bien que dans certains secteurs, c'est important d'avoir une forme de maîtrise pour ensuite le transmettre à des plus jeunes. On prend le compagnonnage ou d'autres métiers du soin, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, comment peut-on faire évoluer les métiers si il n'y a pas le mot engagement pour faire évoluer des pratiques, pour faire évoluer des institutions, pour faire évoluer le monde du travail, puisque à partir du moment où on se dit, et ça je l'entends, c'est légitime, moi je ne suis pas bien dans mon travail, je n'ai pas les conditions, j'ai trop de pression, mais comment les combats collectifs de solidarité, du vivre ensemble, vont-ils pouvoir se poursuivre?
Ouais, je ne sais pas trop comment répondre, parce que c'est une question très politique. Nous, on est là invités à partager nos expériences personnelles. On n'est ni syndicaliste, ni élu. Donc, mais moi, je pense que... Ouais, il y a une très belle revue, d'ailleurs, qui s'appelle « L'âge du fer », F-A-I-R-E, naturellement. Mais je pense qu'on est un peu à ça. Souvent, moi, c'était... des trucs de chantier où quand on est toujours en auto-organisation et qu'on est 30-35 sur un chantier, il y a des menuisières-menuisiers, des charpentières-charpentiers, forgerons-forgeronnes, tout ça, et qui ne se retrouvent pas forcément à travailler dans leur corps de métier. De temps en temps, on dit « Ah ouais, non, mais est-ce qu'il faut faire ci comme ça ? On ne va pas attendre une demi-heure que le copain qui soi-disant doit chapeauter cette partie du chantier arrive. » Et quand c'est pas très grave, on dit « Vers Martha Trèche, celui qui fait à raison ne va pas se demander pendant une heure si la poutre on la décale de 2 mm à gauche ou 2 mm à droite, puisque de toute façon ça n'a aucune importance. Et que je pense qu'il faut oser, et on parlait depuis tout à l'heure de rencontres et tout ça, et que cette transition, alors comment elle va se faire dans les institutions, comment nous on peut faire bouger les institutions. Je pense que quand on s'intéresse un peu au mouvement syndicaliste et à la politique, on dit qu'on peut arriver à faire des choses, mais qu'on ramasse plus de lacrymo et des grenades de désencerclement que de résultats. Mais de toute façon, il faut continuer à se battre. Mais moi, je pense qu'il faut se battre au jour le jour pour ses propres décisions à soi et travailler par l'exemple, quoi. Et que... Et souvent, on me demande aussi, parce que par exemple, l'allemand, j'ai vraiment choqué sur la route, j'ai appris à parler allemand parce que j'étais dans un milieu homoglobe, tout le monde parlait allemand, et ne serait-ce que pour comprendre ce qui se passait sur un chantier, j'avais besoin de parler la langue. Nécessité fait loi. Quand tu as vraiment besoin de faire quelque chose, que c'est vital, tu le fais. Et que je pense que. Enfin, moi, je tirais cette conclusion-là. C'est une question de volonté, alors qu'on met des bâtons dans les roues, qu'on soit soutenu ou pas, il faut avoir le courage de vivre sa vie comme on l'entend. Ou en tout cas essayer.
Juste, on pourrait imaginer, qu'on pourrait partir à la retraite. De dire que pendant 2 ans, un an ou 6 mois, je ne sais pas, on s'arrête de travailler pour transmettre. Alors ça se fait, hein, j'imagine, dans l'entreprise. Et on n'a pas du tout cette culture de la transmission, on n'a pas du tout la culture de la reconnaissance de l'expertise des gens en carrière. Les seniors sont des vieux. C'est ça la définition d'un senior, c'est un vieux. Voilà, un vieux inutile. Voilà. Et c'est vrai, je suis effrayée, j'ai 50 ans, alors j'ai un certain nombre d'amis qui ont 58, 60 ans, ils restent tous de la. Enfin, un certain nombre rêvent de la retraite. J'ai beaucoup travaillé, j'ai droit à la retraite. Et je leur dis, mais c'est justement maintenant que tu es le plus expérimenté, c'est justement maintenant que tu as quelque chose à mettre en scène, c'est justement maintenant que tu es fort de tout ce que tu as reçu. C'est justement maintenant que tu peux exprimer le plus. Et c'est maintenant que tu veux tout arrêter pour aller voir ton dé dans ton jardin. Je trouve que c'est dommage aussi, cette... Mais peut-être que voilà, c'est aussi l'image qu'on se renvoie les uns les autres. Alors, un jeune, il est forcément incompétent, parce qu'il ne sait pas. Et un vieux, il est forcément inutile, parce qu'il ne sait plus. Et puis entre, il y a des gens qui se posent des questions pour changer de métier. Donc, on n'est pas... Non, mais c'est vrai. C'est une vraie question, la question de la transmission. C'est une vraie question. Et voilà, c'est une vraie question. Et je pense très politique.
Et très politique.
Oui. Oui, alors voilà. Après, est-ce qu'on doit forcer les gens à transmettre? C'est quand même aussi, hein, comme idée. Ce n'est pas possible de l'avancer. Mais bon. Mais, faut y penser.
Très bien, je pense que nous allons conclure là-dessus. Merci à tous d'avoir participé à ce témoignage. Franchement, je trouvais que les intervenants étaient... je m'attendais à des rejets de travailleurs. J'ai trouvé des gens qui cheminaient, hein, qui étaient sur une trajectoire qui évoluait énormément. Merci à l'Artex pour avoir organisé cet événement et merci à tous d'être venus assister à ce débat. Me voilà avec beaucoup de questions demain pour mes jeunes élèves à qui je vais devoir dire « Mais qu'est-ce que tu feras plus tard ?» Alors qu'en fait, je devrais peut-être les préparer justement à tirer le plein potentiel de leur existence plutôt et essayer de se penser comme une profession ou sur un chemin. Merci.
Au nom de vous tous et de l'équipe de l'Artex, nous tenons à remercier Pierre-Jean, Mathilde, Valentin et Pierre qui nous a animé cette soirée. Moi, je retiendrai un petit peu, c'est le fil rouge que nous avons découvert, en tout cas, que moi j'ai découvert de toutes ces soirées, c'est la quatrième. Je vous rappelle que c'est pas fini, puisque le 7 décembre, à 20h, au Parvis, en partenariat avec le Parvis, venez regarder le film À temps plein, donc il clôturera dans ce casette de l'Artex. Donc j'invite dire le fil rouge, eh bien, aide ton prochain comme toi-même, et tu seras bien dans ton travail. Bonne soirée à tous, et merci encore.